L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous allons entamer aujourd'hui une longue série d'émissions qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année, quasiment, sur la mission du couple et la mission d'annonce de la bonne nouvelle, de rayonnement de la bonne nouvelle du couple. Pourquoi aujourd'hui il est si important de rayonner, d'annoncer, de témoigner de l'évangile du mariage, de cette bonne nouvelle du Christ pour l'amour humain, pour l'amour conjugal, pour l'amour familial. Et donc aujourd'hui, alors nous allons essayer de camper, Maud, un peu le décor.
Voilà, parce que pour savoir quelle est la mission du couple, c'est aussi important de regarder avec lucidité ce qui se passe autour de nous. Et c'est aussi à partir de ce regard-là que nous allons adapter notre mission aux besoins des temps, comme dirait l'Évangile.
Alors en plus, en préparant cette émission, on s'est dit, ah ouais, mais alors cette émission, c'est vrai qu'à un moment, elle a un côté pas très sympa, parce que justement, on va essayer de camper un peu le décor. Et que si jamais justement le Christ vient nous sauver, c'est qu'à un moment il y a bien des problèmes. Et donc on va essayer un petit peu de brosser pendant cette émission la situation. Mais on montrera, il faut toujours avoir un regard par derrière. C'est vrai, la situation elle est là. Et donc le Christ il vient nous rejoindre, il vient nous sauver au cœur de cette situation, de ce monde souvent si délicate. Et ne croyons pas que les chrétiens sont exempts justement de toute cette expérience difficile, souvent douloureuse, de l'amour conjugal.
Voilà, alors nous avons choisi un texte de Matthieu où Jésus lui-même a été donc saisi par cette détresse ambiante, et il est pour nous très significatif par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, plus de 2000 ans après.
À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. »
Voilà, Jésus contemple les foules et il est saisi de pitié à l'intérieur de lui-même, car il dit que ces gens sont là, prostrés et n'ont pas de berger. Nous allons reprendre toutes ces étapes parce qu'il nous faut porter aussi sur le monde et sur les personnes qui nous entourent ce regard, je dirais, qui se laisse saisir par la détresse de ce que nous voyons autour de nous.
Oui, ce n'est pas du tout un aspect de jugement moral. C'est une question de rentrer dans le regard du Christ, d'être saisi par justement leur esprit qui les habite, prostrés là. Et combien dans le domaine de la sexualité, de la vie amoureuse, de la vie conjugale, notre monde est si caractéristique de cet esprit-là. Et c'est pour cela, et au début de cette longue série d'émissions sur la mission à l'évangélisation, combien le Seigneur appelle vraiment des ouvriers qui sont peu nombreux pour annoncer cette bonne nouvelle, parce que justement, il y a une profonde détresse chez nos contemporains. Alors Maud, on rentre un peu dans le descriptif, dans le regard justement sur cette expérience.
Voilà, donc on peut dire que ce qui est clair, c'est que l'amour n'a jamais été aussi libre que dans nos sociétés d'aujourd'hui. Libre dans le sens qu'on peut se choisir, on n'a pas de mariage contraint ou forcé ou organisé, enfin en tout cas normalement. On a la liberté de s'engager ou de ne pas s'engager, liberté de s'aimer dans la durée ou pas dans la durée. Et puis surtout, on a d'énormes aspirations concernant le bonheur conjugal, et notamment, nous avons beaucoup, si je puis dire, remonté la barre, de l'exigence conjugale et de la qualité de notre relation. Je veux dire, peut-être que dans les générations précédentes, on acceptait de rester avec quelqu'un, même dans une sorte de compagnonnage un peu sympathique, mais pas très chaleureux. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de vivre une vie conjugale de 40 ou 50 ans qui ne s'appuie pas sur une qualité de communion et de relation qui s'améliore, si je puis dire, et qui grandit.
Voilà. Et puis, il faut dire que même si jamais la grande majorité de nos contemporains n'ont pas la foi, ne vivent pas la foi, quasiment 9 jeunes sur 10 et jeunes couples sur 10 désirent vivre quand ils se mettent ensemble sérieusement, une vie conforme au dessein évangélique, c'est-à-dire un homme, une femme, pour la vie, avec des enfants qui sont fidèles, etc. Et aucun couple qui se met ensemble dit, le jour où on se sépare, c'est indifférent. Donc, il y a vraiment une crainte, il y a vraiment un désir profond de réussir son couple. Or, qu'est-ce que nous dit l'expérience concrète, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 divorces pour 10 mariages en France, et je crois que c'est 6 sur 10 à Paris, et qu'en Europe, un mariage, ça dure en moyenne 10 ans, et que les sociologues aujourd'hui, quand ils font des projections par rapport à des couples qui se mettent ensemble de manière sérieuse, et bien quand ils voient à un moment les couples qui se défont, quand ils font une projection, et bien ils se disent, voilà, les couples qui se mettent aujourd'hui ensemble, il y a 9 chances sur 10 qu'ils ne soient plus ensemble à la fin de leur vie. Donc ça veut dire que la chose la plus importante de sa vie devient la chose la plus difficile, et quasiment, à 9 chances sur 10, quasiment un échec. C'est quelque chose qui est terrible. C'est la chose la plus importante de la vie, dont on est quasiment certain que ça va être un échec.
Voilà, c'est aussi la chose qu'on souhaite réussir le plus, puisque ça arrive toujours en tête des sondages. Évidemment, on est quand même tous maintenant assez grands pour comprendre que une vie à se dépenser que pour des biens matériels, c'est vide de sens, et que ces biens matériels n'ont qu'un sens, c'est permettre l'épanouissement de la famille et l'amélioration de la qualité relationnelle du couple et du bonheur du couple. Et on sait très bien que c'est là l'essentiel de la vie. Or, si les aspirations sont extraordinairement fortes, la déception aussi est forte, parce que nous sommes tous confrontés à notre incapacité à aimer, à notre difficulté à aimer.
Je veux dire, la situation sur cet aspect-là est quand même dramatique. Ce n'est pas dit assez, mais vraiment, l'aspiration la plus profonde devient l'échec qui est le plus généralisé. Et puis, que dire ? Bien sûr aussi, des aspects dramatiques pour les enfants. Je veux dire, un enfant est le fruit de l'amour d'un papa et d'une maman, d'une seule chair. Si papa et maman se séparent, quelque part, c'est la négation de ce que je suis, c'est la négation de mon histoire. Par définition, papa et maman se sont aimés pour que je sois là. Et donc, ils s'y séparent. Et donc, c'est tout ce que ça génère de traumatisant, plus ou moins inconscient, chez les enfants. Un enfant ne désire qu'une chose, c'est que papa et maman sont ensemble. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à des enfants, c'est que papa et maman s'aiment. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que c'est une situation aujourd'hui, attendez, mais c'est dramatique, c'est vraiment un Titanic. C'est un Titanic parce que c'est tout à fait généralisé.
Voilà, sauf que nous sommes sur le bateau, mais que nous savons l'urgence qui est d'annoncer la lumière de Christ au milieu de ces ténèbres. Et nous savons comme il est primordial, nous ne pouvons pas, sous peine d'être accusés de non-assistance de couple en danger, ne pas dire où est le canot de sauvetage, et ne pas indiquer la route pour sortir de ce naufrage généralisé.
Alors, autre focalisation, c'est par rapport à l'érotisme, etc. Cet érotisme qui imprègne de plus en plus notre société et qui est vraiment comme la preuve que les peuples ayant quitté la foi et le chemin du salut et du Seigneur cherchent, comme ils ne sont plus aimés, ils cherchent un peu des pis-aller et ils tombent dans un érotisme et dont la parole, d'ailleurs, dit très clairement qu'il nous entrave sur le chemin du bonheur. Ces sources de jouissance éphémères, insatiables. On est alors esclaves dans ces filets, captifs, asservis aux éléments du monde. Donc cet érotisme, sous prétexte, on dit que c'est libérateur, c'est la libération sexuelle, mais au contraire, on est de plus en plus complètement enfermés. Et puis c'est, comme on dit dans le sud de chez nous, c'est pégueux. C'est poisseux, c'est quelque chose qui ne satisfait absolument pas nos passions à un instant T, mais au contraire, par derrière, ça laisse vraiment des fruits très très amers.
Voilà, et ça imprègne notre vie intérieure par une sorte de déception, de lassitude. Ça casse une certaine énergie vitale en nous, parce que l'exercice de la sexualité n'est pas neutre sur notre vie intérieure. On le sait, et depuis des générations et des générations, Saint Paul répétait, celui qui s'unit une prostituée fait un avec elle. C'est-à-dire, on sait très bien que la prostitution, par exemple, imprègne notre être en profondeur. Mais on peut l'élargir à tout, si je puis peux dire, toutes les dépravations de la sexualité. Donc tout ce qui est masturbation, tout ce qui est vie dissolue, adultère, pornographie, etc.
L'homosexualité, etc.
Voilà, toutes ces expériences qu'on essaye de faire en disant que ça doit être excitant. Effectivement, c'est peut-être excitant sur le point de vue physiologique, mais en tout cas, au niveau intérieur, c'est sacrément pas excitant, c'est pire que ça, c'est déprimant. Et quand on a le courage de regarder en face la réalité de son âme, après avoir vécu ces expériences-là, quand on a le courage d'écouter son cœur profond, eh bien, on entend, et on entend cette tristesse qui s'installe, cette déprime, ce dégoût. Il y a une sorte de lassitude. Et voilà dans quel monde nous avons à annoncer la parole.
Voilà, et donc, il faut saisir, on n'est pas dans une question de morale, on n'est surtout pas en train de, Dieu nous en garde, de tomber dans un pharisaïsme, je dirais, moralisateur. On est en train de saisir, avec vous, de contempler, si on peut dire, toute la détresse de notre monde contemporain, qui aspire profondément, je dirais, à la révélation et à l'expérience conjugale et familiale telle que le Seigneur l'a dessinée depuis les origines. Il s'en éloigne complètement, comme si jamais nous sommes faits comme un poisson est fait pour le milieu aquatique. Il est sorti du bocal et il n'a de cesse que de rechercher ce milieu aquatique pour respirer, pour dilater, etc. Et tant qu'il n'est pas dedans, eh bien, il va chercher des pis-allers, mais finalement, dont les remèdes sont pires que le mal.
Voilà,
et donc, il y a cette profonde aspiration à goûter cette libération, mais sans même la connaître, sans même connaître le chemin et en avoir le décryptage.
Voilà, c'est pour ça que les couples chrétiens sont invités à entendre et si je puis dire, à laisser transpercer leur cœur par cette angoisse de nos contemporains qui sont devant cette difficulté et qui souffrent. Et voilà, nous devons laisser notre âme à l'intérieur de nous-mêmes, étreindre notre cœur profond de compassion comme le Christ a été saisi de pitié pour ses foules.
Voilà, il faut entendre ce cri comme nous l'avons entendu lors d'un rassemblement de couples dans un monastère où des couples non croyants passaient à côté et en voyant apparemment le rayonnement de joie des couples qui étaient là à rassembler, ils ont dit écoutez, je ne sais pas ce qui vous habite, mais nous avons envie de goûter le bonheur, nous avons envie de réussir notre couple, aidez-nous à réussir notre couple, si jamais le Christ c'est le chemin, eh ben montrez-nous le chemin du Christ. Et c'est bien ce que le monde nous dit aujourd'hui, montrez-nous le chemin de bonheur pour réussir nos couples, si c'est le Christ, alors montrez-nous. À tout de suite. Pour essayer de mieux saisir l'expérience de notre monde concernant le mariage, la sexualité, la vie amoureuse, voire essayer de saisir, de regarder dans quel monde a besoin de l'annonce du Christ.
Voilà, et qu'est-ce qu'il vit comme entrave et comme douleur? Et nous parlions de cette angoisse par rapport à la réussite de l'amour conjugal qui est une vraie difficulté pour nous-mêmes et pour nos contemporains.
Voilà, c'est ainsi que tout ce qui a été comme modèle conjugal, qui a été construit au trait de la révélation chrétienne, au cœur de nos sociétés, eh ben, effectivement, comme cette société s'éloigne du Christ, effectivement, ce modèle, ben, je dirais, se liquéfie, et puis de nouvelles valeurs, entre guillemets, apparaissent, et qui nous mènent à un modèle d'union, mais qui devient à l'encontre de la révélation. De la révélation chrétienne.
Bon, je pense qu'on ne peut pas parler tellement de modèle, mais de non-modèle. C'est-à-dire que c'est une perte de repère, parce que justement, comme on est dans une sorte d'angoisse et de difficulté à réaliser ce que nous portons en nous de façon anthropologique, on essaie de se rassurer en se disant que non, finalement, on peut peut-être trouver des solutions alternatives, comme par exemple trouver des fidélités successives ou globales.
Voilà, c'est nouvelle. Voilà, l'important, c'est d'être fidèle. Oui, ça, la fidélité, c'est accepté. Mais c'est fidèle à l'instant T. Donc on peut avoir plusieurs fidélités successivement ou globalement. C'est-à-dire finalement on est avec la même personne, mais finalement on s'autorise des petites incartades à droite à gauche. Voilà.
Et on peut aussi dire comme ça que c'est très bien d'avoir une famille recomposée avec des mariages successifs, des grands-parents, des oncles et tantes, et on finit par être une espèce de clan ou tribu, et on prône la valeur de ces tribus familiales.
Voilà, et même beaucoup de... Il y a eu tout un débat pendant l'année 2008 au niveau des marâtres, qui justement disaient il y a tout un système médiatique qui est en train de montrer combien est très positive cette expérience de la famille recomposée. Mais combien la réalité, justement, très concrète, montre que c'est quelque chose souvent de très douloureux pour les uns et pour les autres.
C'est-à-dire que, curieusement, à la fois on prône une autre façon de voir les choses, et à la fois les scientifiques, les psychologues, les pédopsychiatres ne cessent de progresser dans la lecture des drames que cela produit dans les cœurs. Et on sait très bien que l'adultère, par exemple, dans toutes les civilisations, de tout temps et de toute génération humaine, est toujours un drame. On sait de la même façon que, eh bien, une séparation pour un enfant est toujours un drame. Même si ça se passe bien, comme on dit, entre guillemets, intérieurement, c'est difficile. On sait très bien qu'une famille recomposée, où l'enfant ne sait plus qui est qui, est extrêmement perturbant pour lui. Et il y a même des psychologues qui passent leur temps à expliquer leur arbre généalogique aux enfants pour les resituer. Donc tout ça, on le sait. Écoutons la détresse et n'essayons pas de le masquer par une fausse vérité pour essayer quelque part de s'excuser. Excusez.
Encore des nouvelles valeurs érigées par notre société qui sont justement des contre-valeurs en disant bon, de toute façon il faut que les gens soient libres entre il n'y a pas de hiérarchie de valeurs entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Et pareil par rapport à l'éducation des enfants par deux parents d'un même sexe ou deux parents de sexe différent. On est en train d'ériger finalement la même norme, mais on est en train d'ériger des normes qui sont vraiment contre la vérité. Et c'est là où nous avons rentré dans cette intelligence, cette compréhension que nous apporte la parole, où Paul parle de la tromperie. C'est un mensonge permanent. Un mensonge permanent, au niveau idéologique, c'est pas grave, mais si jamais ça a une influence profonde sur les gens et sur leur vie, et ça fait des ravages, alors à ce moment-là, c'est ça où c'est grave. En effet, dit Paul, il y a des temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et ainsi l'homme sera balancé à tout vent de doctrine. Et c'est vraiment l'expérience de notre société. Et ces nouvelles doctrines qui nous ballottent complètement, alors là, elles sont source, elles, de détresse, de malheur, de confusion. Et là, effectivement, c'est là où nous avons à la fois à témoigner et à annoncer avec beaucoup de tendresse, beaucoup de miséricorde, parce que tout cela est très douloureux.
C'est douloureux, et puis les personnes qui le vivent sont sujettes, comme nous, à des combats, à des difficultés, et parfois insurmontables. Donc la question est bien de poser un regard de vérité et d'exigence sur la profondeur de ce que nous vivons, et la vérité de ce que nous vivons, et puis à la fois une immense compassion, parce que bien sûr, sans outils, sans moyens, comment arriver à vivre ce à quoi nous sommes appelés. Et moi, j'aime beaucoup cette cette parole de l'apôtre qui simplement énonce ce qu'il voit lorsqu'il dit « Vous êtes dans ce monde sans Dieu ni espérance ». Voilà, tuer Dieu dans son cœur et dans son âme, c'est tuer l'espérance.
Et le fruit de cette expérience sans Dieu et ni espérance, sans Dieu et ni espérance, c'est épreuve et angoisse de l'âme, dira Paul aux Romains. Et donc c'est vraiment l'expérience de nos contemporains, combien aujourd'hui témoignent de ceux de la révolution sexuelle des années 68, aujourd'hui qui disent finalement, le fruit de notre révolution, quelle amertume! Quelle amertume! Et donc, nous désirons, nous sommes sensibles à cette détresse, et il ne faut pas attendre 20, 30, 40, 50 ans pour finalement reconnaître que tout ça, c'était vain, c'était finalement construire des châteaux sur le sable. Et donc, nous devons conduire et témoigner que chaque homme est en attente de la révélation, et que même si jamais ils ne le savent pas, les hommes et les femmes de notre temps attendent la bonne nouvelle du couple, du mariage, qui est inscrit dans leur gène. C'est inscrit dans notre nature.
Voilà, je pense que c'est beaucoup plus profond que simplement les hommes et femmes de notre temps, mais nous sommes envoyés aux hommes et femmes de notre temps, de toute religion, confession, idéologie ou culture, nous avons tous une inspiration existentielle, un besoin de tout homme d'entendre et de connaître le chant de joie de la révélation. Ça, c'est vraiment un texte de Paul VI dans La Joie chrétienne qui est magnifique, où il redit avec force que la conviction de chrétien, c'est que nous avons tous en notre cœur ce désir profond, cette attente de la révélation.
Entendons la parole de saint Augustin et appliquons-la à la vie conjugale. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tout couple est d'une manière ou d'une autre inquiet tant qu'il n'est pas dans cette grâce de la bénédiction et de la révélation. Tout amoureux est finalement inquiet tant qu'il n'est pas dans cette bénédiction originelle, inscrite comme dans nos gènes. Et c'est cela que nous avons à annoncer, à témoigner avec beaucoup d'humilité, beaucoup mieux peut-être que nous l'avons fait. Mais en tout cas, nous avons à rentrer, surtout pas dans le jugement moral, mais dans le fait de montrer, d'indiquer. Mais c'est ça qui habite notre cœur. Cette soif-là, la vérité, elle est là. Elle est inscrite comme notre programme, entre guillemets,
génétique. Il existe vraiment une attente très profonde au sein de chaque couple, de connaître l'évangile du Christ qui libère du péché et qui permet de rentrer dans la béatitude et la joie qui sont l'aspiration de tout couple. Et si on n'est pas certain de ce chemin-là et de l'importance du Christ pour nous sauver dans cette situation-là, bien sûr, on n'a rien à dire, on n'a rien à annoncer. Et on ne peut le faire que si on l'a d'abord expérimenté nous-mêmes, Alex.
Exactement, exactement. Et c'est pour cela qu'il faut... C'est cette expérience qui nous fait lire... Avec Paul VI, on peut parler de la tristesse des non-croyants lorsque l'esprit humain créé à l'image de Dieu est donc orienté instinctivement vers lui, comme vers son bien suprême et unique, reste sans le connaître vraiment, sans l'aimer, et donc sans éprouver la joie de le connaître. Voilà, celui qui est éloigné de Dieu, est vraiment, justement, ressent cette tristesse. Et inversement, il faut entendre... Cette parole du prophète Ézéchiel, Maud.
Comme un jeune homme épouse sa fiancée, ton auteur t'épousera. Comme le mari se réjouit de son épouse, ton Dieu se réjouira de toi.
Voilà, c'est cette bénédiction, c'est ce à quoi nous avons à introduire humblement les hommes et les femmes de notre temps dans cette expérience des épousailles qui dilate la joie et chasse la tristesse de notre cœur de ne pas le connaître et de ne pas l'aimer. Voilà, c'était une émission délicate, on pourra dire, Maud,
oui.
Parce qu'on a essayé vraiment d'ausculter un peu la tristesse de notre temps, mais à la fois, on saisit combien il y a un contraste, mais total, entre la bénédiction et la dilatation immense de Dieu pour les couples est l'expérience conjugale, sexuelle, amoureuse de notre temps. Et donc on voit tout le chemin à parcourir et le bonheur immense à offrir à nos contemporains.
Voilà ce qui nous donne aussi un enthousiasme fou pour annoncer la parole, c'est que plus la nuit est profonde et plus la lumière se voit. Donc soyons des lumières les uns pour les autres pour annoncer ce bonheur de vivre avec le Christ.
Allez, soyez bénis et à la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.